Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors c'est la deuxième saison, vous le savez maintenant, de ce podcast qui parle de notre quotidien, des agents du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui protègent, qui aident, qui orientent, qui parfois aussi réglementent, parce que c'est important de créer des normes, des règlements, des moments forts de notre existence au service de nos concitoyens. Et j'ai aujourd'hui avec moi deux grands témoins qui vont nous partager leur expérience. Et je dois vous dire que je me trouve dans un endroit que beaucoup, j'imagine, ont envie. Je me trouve à Ajaccio, dans cette belle région de Corse, à la préfecture, qui est une bâtisse très ancienne, qui a près de 200 ans d'âge. Et dans une salle au sous-sol de cette belle préfecture, on a installé le studio de podcast pour recevoir nos grands témoins, que je suis très, très heureuse d'accueillir. Alors, je dis d'accueillir, mais c'est surtout eux qui m'accueillent dans leur beau département. Et donc j'ai avec moi Jean-Jacques et Pierre qui vont dans un instant déjà se présenter, expliquer ce qu'ils font. Et le sujet de ce podcast, c'est la protection du massif forestier corse, du maquis corse. La saison des incendies, malheureusement, commence chaque année de plus en plus tôt. Et il est important de protéger nos forêts. Et ici en Corse, on a un massif très particulier qu'on aime particulièrement. On aime son odeur, on aime ses plantes. Et il faut partout qu'ailleurs, mais encore plus parce qu'il nous est cher, le bien entretenir, le bien protéger. Et c'est de cela dont on va parler ensemble. Donc déjà, merci beaucoup à tous les deux. Et peut-être Pierre, je commence en me tournant vers toi. Tu es directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ici en Corse. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelque part qu'est-ce qui t'a amené, quel a été ton chemin jusqu'à arriver ici aujourd'hui?
Alors, c'est un chemin qui est un peu parallèle à celui du ministère de l'Intérieur, puisque je suis agent du ministère de l'Agriculture. Je suis au départ ingénieur agronome, ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, et puis maintenant on dit ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
wow.
Avec la fusion des corps. Et moi, j'ai une carrière qui est uniquement d'administration territoriale. J'ai été en direction départementale de l'agriculture et de la forêt. J'ai été ensuite chargé de mission dans un secrétariat général pour les affaires régionales en Bretagne. J'ai été moi-même plus tard secrétaire général aux affaires régionales de la région Centre. Ça a été mon premier passage comme fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Et puis j'ai également été deux fois directeur départemental des territoires, d'abord en Maine-et-Loire, et puis directeur départemental des territoires et de la mer jusqu'à il y a environ un an dans les Côtes d'Armor.
Ah, donc tu as parcouru la France.
J'ai parcouru la France, mais essentiellement dans le Nord-Ouest, et ça m'avait presque été reproché. Donc quand on m'a dit qu'il serait bon que je fasse une petite escapade, par exemple, très au sud, et qu'on m'a proposé la Corse, je me suis dit que c'était un bon challenge pour un premier poste de directeur régional.
C'est pas trop dur de changer tout le temps d'endroit pour la famille Après, on découvre plein de choses, j'imagine.
J'ai fait le choix depuis quelques années de venir en célibat géographique. J'ai laissé ma famille à Angers, donc dans mon antécédent poste.
Et même là encore, s'ils sont pas venus?
Ils viennent quand même pour les vacances, évidemment.
Est-ce que c'est tes missions au quotidien? Directeur régional, en tout cas, voilà, c'est impressionnant.
Mais... Donc c'est le service, évidemment, qui représente le ministère de l'Agriculture sous l'autorité du préfet, ici en région Corse. Et donc on coordonne l'activité des deux directions départementales des territoires et des directions en charge de la protection des populations, les DETSPP, pour donc toute la mise en œuvre des politiques du ministère de l'Agriculture. C'est bien sûr le suivi, on va dire, de l'économie agricole, de la politique agricole commune. C'est évidemment les politiques sanitaires pour la protection des animaux et des végétaux. Et puis c'est évidemment la politique forestière qui est un des grands cailloux dans ma chaussure, je pourrais dire, tant il y a à faire en Corse.
Est-ce que tu as une spécialité? Puisque tu l'as dit, tu étais agronome, tu as une spécialité, je ne sais pas, les vaches.
Alors moi, oui, j'ai une spécialité qui est effectivement plutôt l'économie agricole et puis une double spécialité sur l'environnement, parce que j'ai fait à la fois plutôt des postes sur la protection de l'eau. Je me suis occupé avec, à la préfecture de région Bretagne, je me suis occupé de la lutte contre les nitrates avec la mission régionale et interdépartementale de l'eau, qui existe toujours 20 ans après. Et puis effectivement, donc outre la police de l'eau et on va dire la protection de l'environnement, l'économie agricole au sens très large.
Eh bien, c'est très clair, c'est passionnant. Alors, Jean-Jacques, toi, un tout autre chemin,
tout à fait.
Ici.
Alors, je suis, par rapport à l'itinéraire de Pierre, resté en Corse, puisque...
Tu n'as pas le même accent.
c'est mon île. Et donc, j'y suis fortement attaché, donc un parcours, somme toute, traditionnel, scolaire, pompier volontaire,
À quel âge alors ?
Bah, 18 ans, et voilà, ouais. 18 ans, t'as jusqu'à l'âge de 20 ans. Un parcours universitaire qui m'a amené à passer un concours d'officier. Puis j'ai commencé en 85 en Corse du Sud jusqu'en 2017, où j'ai pas vraiment bougé de mon département, puisque ça reste une circonscription administrative. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller en Haute-Corse. Alors, ça ne semble pas très loin, mais pour ceux qui prendront le train tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous allez voir que le trajet entre la Corse du Sud et la Haute-Corse, il ne faut pas compter en kilomètres, il faut compter en heures. Donc, on est sur une destination qui est à la fois apparaît sur une superficie relativement courte, mais qui a quand même, en termes de temps, des distances importantes. Et donc, là, en Haute-Corse, tout simplement pour exercer la fonction de directeur adjoint, puisque j'ai eu l'opportunité d'avoir des formations
à Bastia,
en Haute-Corse. Tout de suite, j'ai assuré l'intérim pendant 3 ans, parce qu'il n'y avait pas de directeur en poste. Et ça m'a permis, alors, pour le coup, chose qui me paraît évidente, mais qui ne l'est pas forcément, c'est de bien connaître l'ensemble du territoire, du nord au sud, avec toutes ces différences, ces histoires aussi, puisque c'est deux services incendie qui ont évolué parallèlement. Même si les missions sont les mêmes, il y a chacun son historique, et j'ai trouvé ça très enrichissant sur ce parcours. Alors, là, aujourd'hui, je suis directeur de Corse du Sud. Je suis revenu, donc, on va dire, un peu plus chez moi, mais la Corse, c'est chez moi, voilà. Pour simplement diriger un établissement qui compte 21 centres de secours, à peu près 18 000 interventions. Alors, nous, les grandes missions du service incendie, c'est des missions partagées, prévention, gestion des risques, sauvegarde des biens et des personnes, mais une mission qui est exclusive, c'est l'incendie, qui est partagé avec personne, puisqu'on est,
vous êtes les seuls à savoir
les maîtres d'œuvre dans ce domaine, qu'il soit l'incendie urbain ou l'incendie feu de forêt. Voilà ce qui est un peu le sujet aujourd'hui.
Alors, 21 centres de secours, ça fait combien de pompiers au total ?
On est sur un effectif d'à peu près 200 pompiers professionnels, à peu près 1200 pompiers volontaires, avec, on va dire, le gros des centres de secours qui sont des centres purement volontaires.
D'accord.
Et il y a, on va dire, 5 unités, 6 en comptant le CTA CODIS, qui sont ce qu'on appelle des centres mixtes, c'est-à-dire professionnels et volontaires.
Et vous arrivez à recruter assez des volontaires chaque année ou... Parce qu'on peut faire une petite page de pub pour que
des personnes
vous rejoignent.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on n'a pas de difficultés sur le périurbain, le Grand Ajaccio, par exemple. On a plus de difficultés en dehors, dans le rural ou presque rural. C'est une difficulté prégnante sur l'ensemble du territoire national.
Parce que les gens connaissent peut-être pas bien aussi le dispositif et comment s'organiser avec son employeur aussi pour arriver à faire les deux. C'est pas rien comme engagement.
Il y a de ça, et puis je crois qu'il faut démystifier un peu l'image qu'on a du sapeur-pompier vis-à-vis de l'accessibilité à cette activité, parce que c'en est une pour pompier volontaire, c'est pas un métier. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est accessible à beaucoup de gens.
Alors, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet qui nous intéresse, à savoir la forêt en Corse. Est-ce qu'elle a des caractéristiques spécifiques et après, on va parler de la protection, donc comment on peut prévenir des incendies dans ce maquis. Peut-être je me tourne vers toi, Pierre, par rapport à d'autres forêts du côté de l'Hexagone. Est-ce qu'il y a des différences? Quelles essences sont présentes? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières?
Oui, absolument. Donc la première chose, évidemment, qui frappe aux yeux dès qu'on arrive sur Ajaccio ou sur Bastia, par le bateau ou par l'avion, c'est qu'on voit de la forêt partout. La Corse, on considère que c'est environ 62% du territoire qui est forestier. On est très au-dessus de la moyenne nationale, qui est à peu près à 32%, si je ne dis pas trop de bêtises. Et effectivement, c'est une forêt qui est très diverse. D'abord, une forêt effectivement de production, avec de magnifiques pins lariciaux qui sont une espèce du bassin méditerranéen et en particulier de Corse, puisque le pin lariciaux, c'est une spécificité de la Corse. Et puis, en plus de ces belles forêts, où on trouve aussi, bien sûr, des hêtres, des châtaigniers, on trouve évidemment le maquis. Et effectivement, donc, on est dans une forêt typiquement méditerranéenne. Alors, effectivement, là, c'est une des questions, notamment en termes de protection contre les incendies. C'est où commence la forêt, où s'arrête-t-elle? Est-ce qu'on est dans le maquis? Est-ce qu'on est dans la forêt productive? C'est toute une question effectivement qui pose des problèmes, y compris d'entretien. Mais voilà, donc c'est une belle forêt. Elle couvre donc 550 000 hectares sur les 850 000 hectares de la Corse. Donc c'est vraiment très important. Et c'est une forêt qui est sinon plutôt classique dans sa gestion, c'est-à-dire qu'elle est, on va dire, à moitié privée, appartenant à des propriétaires privés, et à moitié publique. Et elle a, avec par contre là une caractéristique, c'est que on n'a plus de forêt domaniale, donc appartenant à l'État, puisque les forêts ont été transférées pour donc on va dire un petit quart de la superficie forestière à la collectivité territoriale de Corse lors de la loi sur la Corse de 2002. Mmh. Et puis un quart des forêts qui appartiennent aux communes, comme on peut le trouver sur le continent.
On a parlé de la flore, il y a une faune spécifique aussi.
Alors oui, évidemment, il y a des espèces endémiques de la Corse, comme évidemment le mouflon. On a également des cerfs, y compris des cerfs qui ont été réintroduits dans les années 70 ou 80 ou 90 de Sardaigne. Et puis on a évidemment des ongulés, du sanglier et toute la faune, toute la faune habituelle.
On a des espèces en danger aussi dans cette biodiversité ou...
Oui, on va trouver dans la forêt et puis bien sûr dans le maquis. Alors le maquis, c'est donc composé de cistes, d'arbousiers, d'un certain nombre d'espèces. Espèces de caractéristiques, on va trouver notamment la tortue d'Hermann, qui est une tortue protégée et là aussi spécifique à la Corse.
Est-ce que déjà en ce début d'année en Corse, vous avez eu des incendies? Et sinon, d'habitude, à partir de quel mois commencent les premiers incendies, feux de forêt ici en Corse?
C'est l'occasion de rompre un peu avec l'image qu'on a des incendies et de la période. Si je me remémore les cinq dernières années, que ce soit en Corse du Sud, en fait, on se rend compte que, alors, changement climatique, évidemment, les plus gros incendies, on les a eus en dehors de la campagne feu de forêt.
C'est-à-dire pas forcément en plein été, c'est ça?
Exactement. Après, je vais revenir, après, si tu le permets, sur la partie dispositif, etc., puisque la focale, effectivement, c'est le moment où il y a le plus de monde, mais pas que, le plus de chaleur, le plus de risques, c'est forcément l'été. Donc, traditionnellement, on organise un dispositif particulier l'été. Or, si on se remémore ce qui s'est passé depuis 2018 environ, année de sécheresse 2017, beaucoup de feux catastrophiques en 2017, notamment en Haute-Corse, des feux qui ont démarré en 2018 sur les secteurs de Haute-Corse, et ensuite on a eu des épisodes qui se sont reconduits d'année en année avec des feux de plusieurs milliers d'hectares. Dans le dernier, celui d'une forêt d'ailleurs emblématique, le Bavel, alors commune de Coins, qui a fait 4000 hectares. La lutte a duré à peu près 3 semaines, un mois. Et c'est un feu qui est parti au mois de février, 4-5 février, phénomène de tempête, phénomène d'humidité très basse, température exceptionnellement haute à cette période, 25 degrés. Et on voit qu'on a un décalage par rapport à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des grands feux en dehors de la campagne de feu de forêt, mais pas autant. Donc on voit qu'on a un étalement du risque. Et là, il faut le prendre en compte dans notre façon de raisonner, nos dispositifs et notre réponse opérationnelle, hein, puisque... Moi, je suis sapeur-pompier et la réponse opérationnelle, c'est ce que je regarde en premier chef.
Alors, quels moyens vous déployez? Comment vous l'organisez à la fois l'été et le reste de la période? Alors, parce que j'ai bien compris qu'il fallait finalement être en veille toute l'année sur ces feux de forêt.
Peut-être que je vais introduire un sujet sur lequel Pierre va intervenir aussi. En fait, on peut le décliner, on peut l'aborder de plusieurs manières. On a en Corse, depuis des années, un plan qui s'appelle le PFENI, qui est un plan de protection des forêts et espaces naturels contre les incendies, qui a été imaginé par des gens d'expérience, des partenaires, qui sont toujours les mêmes, et qui ont conduit à créer un document, produire un document, qui est en phase d'actualisation d'ailleurs cette année, et qui permet d'aborder l'ensemble de la problématique des incendies de forêt, de la prévention à la lutte, avec l'aménagement du territoire.
C'est un plan, un peu un guide qu'on ouvre quand ça commence et sur lequel on s'adosse pour prendre les bonnes décisions.
Pour programmer des choses.
D'accord, ok.
Prévention, c'est la sensibilisation du public, le débroussaillement légal, c'est...
Planifier les aménagements, évidemment, regarder les pistes forestières qu'on va construire, les pare-feux qu'on va construire, et effectivement sensibiliser l'ensemble des acteurs pour que chacun soit à sa place et à son rôle.
Chacun a une responsabilité dans la prévention, c'est ça?
Absolument, il y a les communes, il y a évidemment les particuliers, il y a évidemment également l'État et la collectivité de Corse qui financent un certain nombre d'infrastructures.
Donc tout ça, c'est dans le plan?
Alors, c'est dans le plan, et je trouve que c'est un plan qui est assez innovant parce qu'il est assez prospectif. Pourquoi? Parce qu'on parlait déjà des méga-feux et des grands feux. Mmh. Et ce plan, il vise à contrebalancer un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire 550 000 hectares de forêt, une masse combustible qui augmente. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle augmente. Et comment on peut faire à un moment donné pour aménager le territoire pour éviter qu'un feu devienne un méga-feu? C'est ce qu'on a vécu un peu en Gironde avec des aménagements qui n'étaient pas prévus. Là, aujourd'hui, on cloisonne le territoire par carré de 400 hectares, c'est un peu l'idée, à travers des études, des implantations d'ouvrages, et ça, c'est de l'aide à la lutte. Des pistes d'accès, et aussi, sur l'aspect forêt domaniale, ex-forêt domaniale, des plans particuliers de protection rapprochée des massifs qui prennent en compte aussi bien la forêt que la protection des personnes.
Oui, donc ce qu'on voit dans l'imaginaire collectif, toutes les images à la télévision des sapeurs-pompiers qui luttent contre l'incendie, en fait, quand on en est là, c'est que tout le reste n'a pas fonctionné. Et finalement, une grosse partie de votre travail, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas par des aménagements et par une planification en amont.
Une planification et puis aussi une prévention. Alors par exemple, cet hiver, monsieur le préfet a été amené à prendre au moins 2, je crois même 3 arrêtés pour interdire l'usage du feu pendant les week-ends où il y avait du vent. C'était évidemment une première façon de prévenir tout risque d'incendie par propagation, par des étincelles. Ensuite, on va mettre en place, dès le début de l'été, on va dire environ aux alentours du 15 juin et jusqu'au 15 septembre, un dispositif de surveillance de chacun des massifs. On a découpé la Corse en 30 massifs forestiers, 30 grands massifs, pour faire très simple, et le massif de Bavella, par exemple, en est un. Et on va suivre chaque jour l'évolution du risque sur chacun des territoires.
C'est des guetteurs, c'est des capteurs, comment ça se passe? C'est humain, c'est technique?
Alors, c'est un combiné de la technique, puisqu'il y a d'abord des prévisions météorologiques qui servent, le suivi du vent, la prévision du vent, la prévision d'un certain nombre de paramètres. Et puis, évidemment, c'est couplé avec la fréquentation du public prévisionnel, et puis évidemment avec les surveillances de terrain. Et tout ça va constituer effectivement un guide d'alerte, et donc on va avoir des systèmes de prévention, de vigilance, qui vont aller jusqu'à l'interdiction de pénétrer dans le massif forestier. Et c'est donc un système qui est maintenant automatisé, avec possibilité d'y accéder sur un téléphone portable, en plus d'être publié et à la fois dans la presse, à la fois auprès des mairies. Et donc chacun peut s'abonner à ce système d'alerte et savoir si, compte tenu du jour et compte tenu du risque de vent, de sécheresse, etc., il est prudent, interdit éventuellement, d'aller dans le massif forestier.
Parce que ça, c'est prouvé, plus il y a de monde qui passe, plus il y a de risques d'incendie, parce que là, malheureusement, la plupart des incendies restent d'une cause humaine, qu'elle soit volontaire ou involontaire, c'est ça en fait.
Alors, oui, effectivement, il y a volontaire ou involontaire, les imprudences, y compris l'hiver, souvent ce qu'on a identifié sur ces grands feux, c'est que les gens n'ont pas respecté les consignes.
Ça peut être le mégot de cigarette, c'est le plus simple.
Conditions météo, du vent, les conditions qui faisaient qu'il ne fallait surtout pas brûler à ce moment-là. Et donc, il y a un manque de respect de certaines consignes. Voilà, donc ça, c'est préjudiciable. Et c'est ce qui déclenche la multiplicité des incendies et des départs de feu, donc, qui font que le dispositif est mis à mal par ce nombre de feux.
Est-ce qu'il y a des pratiques agricoles, je pense à l'éco-buage par exemple, qui peuvent être un danger, ou si c'est bien fait, bien encadré, il n'y en a pas? Comment ça se passe dans ce domaine-là?
D'une manière générale, on essaye de l'encadrer, c'est-à-dire qu'on essaye de faire qu'il y ait des conventions d'éco-buage, qu'on sache où, comment ça se fait. Et je sais que Jean-Jacques et tes équipes participent, si possible, à chaque fois pour surveiller, pour essayer aussi. Alors, il y a plusieurs pratiques. Il y a l'éco-buage sur les estives, mais ça, on n'est pas forcément toujours prévenu. Il y a aussi des pratiques de feu dirigé pour essayer là aussi d'orienter, d'entretenir un certain nombre de pare-feux. Et donc tout ça, ce sont effectivement des choses relativement complexes. D'une manière générale, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur l'usage du feu dans l'entretien de l'espace. Moi, j'ai retrouvé dans mes lectures, ça fait un an seulement que je suis en Corse, mais dans mes lectures, pour essayer de me former un petit peu au contexte corse, voilà, j'ai quand même lu aussi des publications rappelant que si on c'était pas forcément par l'incendie, enfin par l'éco-buage, qu'on était le plus efficace pour entretenir un espace, pour entretenir l'estive. Et donc tout ce qu'on va pouvoir faire peut-être par le pâturage, qu'on va pouvoir faire effectivement par l'entretien de l'espace, tout simplement en créant des prés, des parcelles cultivées. Alors, pas malheureusement de céréales parce qu'on va être en altitude, mais des prés d'altitude entretenus, ça va être quelque chose qui, à mon avis, va falloir qu'on redécouvre en Corse.
Est-ce que finalement cette question, elle est dans l'esprit de tous les Corses durant les mois d'été peut-être, mais finalement toute l'année, est-ce que c'est quelque chose, le risque d'incendie qui est prégnant dans les pensées des Corses?
Je dirais, alors il est à la fois prégnant parce que c'est un fait partie de l'histoire de la Corse, hein. Les grands incendies, alors il y a quand même une évolution très positive par rapport au nombre de départs de feu. On voit qu'on est quand même sur une courbe qui a tendance à s'infléchir, et c'est bien. Ça veut dire que la sensibilisation du public, l'éducation des jeunes notamment, des scolaires qui vont devenir les futurs adultes demain, produit ses effets aujourd'hui. Des pratiques anciennes ont disparu et tant mieux. On l'évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qui évoluent très favorablement pour la Corse. Et on le voit d'ailleurs l'été, où on a, depuis 5 ans, alors ça ne veut pas dire que cet été, ça sera calme. Parce que ça, personne ne peut le prédire. Mais on voit qu'il y a quand même une tendance à quand même avoir moins de départs de feu simultanés qu'on en avait avant.
Alors justement, quand le pire commence, quand le feu commence, se propage, quels sont vos moyens, quels sont les dispositifs que tu mets en place, qui sont mis en place sous ton autorité ?
C'est à la fois sous mon autorité, mais surtout celle de Monsieur le Préfet. Voilà, il faut le dire.
J'espère qu'il m'en voudra pas.
Non, mais il n'y a pas de mal. Donc en fait, l'autorité opérationnelle au niveau départemental, alors, pour parler de l'été, on signe ce qu'on appelle un ordre d'opération feu de forêt. C'est un document spécifique qui est constitutif de l'organisation avec la doctrine nationale qui est mise en place depuis des années, c'est-à-dire la prévention, bien sûr, les mesures dont on a parlé, interdiction d'emploi du feu, débroussaillement légal, mais surtout l'occupation du terrain, préventive du terrain avec un dispositif à la fois avec des moyens faits pour la lutte, mais aussi des partenaires, l'ONF ou d'autres, des associations, des réserves communales de sécurité civile, les forestiers sapeurs, etc., de manière à ce qu'on maille le territoire, on l'occupe et on réduise au maximum le délai d'intervention pour tout départ de feu.
Donc on envoie des pompiers, des forestiers sapeurs, des militaires de la sécurité civile. On quadrille tout le territoire pour que dès qu'il y a un départ de feu, on puisse intervenir, quelqu'un puisse intervenir, c'est ça ?
Alors les véhicules sont a priori tous, alors les nôtres oui, mais géolocalisés déjà. Donc on sait déjà
donc,
sur l'ordre d'opération.
Tu es dans une salle de commandement et tu vois que tu as des points qui clignotent sur...
Oui, c'est presque ça, on y arrive presque. Mais en fait, voilà, on a un maillage, de toute façon un adressage, c'est-à-dire que même sur l'ordre d'opération, on connaît l'endroit où doit se situer tel véhicule. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a un départ de feu, on fait converger le premier véhicule et surtout, la technique, c'est d'envoyer tout de suite au moins 2 autres véhicules parce que le minimum, c'est 3 au moins sur un départ de feu. C'est l'attaque massive des feux naissants. C'est le grand principe.
Ce qui est très surprenant pour moi qui arrive effectivement du continent, c'est effectivement cette surveillance qui est très forte, qui est effective. Bon, quand je me déplace, et je me suis évidemment beaucoup déplacé cet été pour découvrir la Corse, c'est de voir qu'effectivement dans beaucoup de villages, on a ces véhicules qui sont prépositionnés, on a ces tours de surveillance. Et c'est vrai que c'est un très très beau système qui implique effectivement l'ensemble des agents, bien entendu les agents des 2-10 au départ, mais également d'autres agents de la collectivité, de l'Office national des forêts, et donc une très très forte implication des acteurs, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui contribue très vraisemblablement à limiter très fortement le risque.
L'eau pour intervenir, elle est dans les engins de sapeurs-pompiers où il y a des systèmes de réserve qui sont prépositionnés ?
Déjà pour le dispositif, si on parle de la Corse en général, il faut considérer que c'est à peu près 800 personnes tous les jours, ce qui n'est pas rien. C'est à peu près, on va dire, 80 à 100 moyens de lutte disposés sur le territoire. C'est les moyens aériens, parce que c'est l'attaque terrestre, mais aussi aérienne.
Donc on envoie des Canadairs,
c'est ça ? Il y a 2 Canadairs qui sont prépositionnés en Corse du Sud, à Ajaccio, et depuis quelques années, un nouvel outil qui est l'hélicoptère bombardier d'eau lourd, qui est un outil qui est adapté au relief, parce qu'on a parlé de la Corse, mais des forêts, mais il faut surtout voir que, vous allez voir, la Corse, c'est une montagne dans la mer. Et donc on a une accessibilité, même pour les moyens de lutte traditionnels, difficile. Et donc on a tout de suite des feux de relief, des feux qu'il faut aller chercher. Et donc il y a toute une technique, c'est pas des feux de plaine. Alors la plaine oui, plaine orientale, la région de Porto-Vecchio, mais tout le reste c'est des feux de montagne. Et donc c'est une technique particulière.
C'est très très intéressant. Vous avez découvert ça les yeux grands ouverts en arrivant, j'imagine.
Oui, avec beaucoup d'appréhension évidemment, quand on m'a dit que j'étais responsable avec mon équipe de ce système d'alerte, parce que ce sont 3 agents de la DRAF qui se relayent à tour de rôle toute la semaine pour mettre à jour tous les soirs la cartographie du danger. Je me suis dit, quelle responsabilité. Et finalement, c'est vrai que c'est très sécurisant de voir que les équipes de Jean-Jacques et toutes les équipes qu'il mobilise sur le terrain sous l'autorité du préfet fonctionnent effectivement parfaitement ensemble. Ça permet, je crois que ça permet vraiment d'éviter des bêtises. Et quand on voit effectivement sans doute certains départements, je citais tout à l'heure le Maine-et-Loire, il y a eu de gros incendies de forêt en Maine-et-Loire malheureusement l'année dernière, la forêt de Baugé qui a brûlé, c'est une forêt que je connaissais bien le propriétaire privé de cette forêt, et manifestement c'est sans doute parce que les forces opérationnelles n'étaient peut-être pas suffisamment prêtes à l'attaquer.
Moi, je me dis aussi qu'ici, vous êtes malgré tout un petit peu loin du continent. Donc, quand il se passe un incendie important, il faut intervenir tout de suite et pas le temps d'avoir des renforts du continent. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que vous avez aussi accordé des renforts de sécurité civile qui peuvent venir en soutien.
L'été, on a un dispositif un peu particulier. Il y a deux phases, en fait. Il y a l'ordre d'opération feu de forêt, où là, on mobilise quelque chose traditionnellement, y compris des renforts qui viennent en plus de l'USS5, puisqu'on a à disposition 3 unités formisques sur chaque département. Ça fait 6, plus de réserves nationales à Corté. Voilà, on a donc ces moyens aériens qui
sont en place. Pour être autonome, en fait,
alors,
s'il se passe quelque chose.
Autonome, c'est un... Effectivement.
Oups, le mot à pas prononcer.
Pourquoi pas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que on a un dispositif qui est une réponse opérationnelle qui est adaptée parce que c'est l'expérience, c'est le fruit de l'expérience, et on voit vraiment qu'on a cette réponse qui est forte. Après, effectivement, on a depuis quelques années, on a quand même une réactivité au niveau national qui est différente. C'est-à-dire que on n'a pas parlé d'un outil qui est très important, c'est l'analyse météorologique, parce qu'on a un outil spécifique qui nous colorie la carte, la veille pour le lendemain, avec une confirmation le lendemain matin, d'un niveau de couleur qui correspond à un niveau de risque. Ça part du léger, ça va jusqu'à l'exceptionnel. On passe par le sévère et le très sévère. Et nous, on cale notre dispositif. Alors, on a un mini qui est tout le temps constant. Et puis après, on l'upgrade en fonction du risque météorologique, et y compris avec des renforts en plus qui pourraient venir du continent. C'est-à-dire que la zone nous envoie des colonnes de renfort supplémentaires.
Donc depuis Marseille
du continent. Alors le continent, c'est pas, ils partent, oui, de Marseille ou de Toulon ou des ports, forcément, mais en tous les cas, c'est des colonnes de renfort qui sont constituées avec des régions et des départements, même y compris du nord. Et puis ils viennent, alors traditionnellement, on préfère voir venir des gens qui ont l'habitude du feu de forêt, donc c'est plutôt l'Ardèche, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, voilà, qui nous envoient des moyens de manière préventive. Et ça, c'est un phénomène, une articulation récente, alors qu'avant, on les avait de manière curative et c'était souvent trop tard.
Alors, j'ai peut-être une dernière question, mais peut-être vous n'allez pas vouloir répondre parce que c'est un peu personnel. Comment on fait pour prendre ses vacances dans ce contexte-là quand on est sur vos missions? Parce que l'été, quand même, il y a un facteur de risque tel que, est-ce qu'on peut s'absenter ou alors comment on s'organise?
On a la chance quand même d'avoir des adjoints.
Oui, c'est vrai.
J'en aurais peut-être pas cet été d'ailleurs, puisque mon adjointe va me quitter très prochainement. Non, mais effectivement, je pense qu'il faut garder toujours un œil sur ce qui se passe, être toujours informé, évidemment. Après, il est nécessaire aussi de se reposer lorsque l'année est un petit peu longue.
Pour ma part, je dirais que c'est un peu un sacerdoce. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, le fait d'être insulaire, ça engage encore plus. Donc, jamais ailleurs que sur la Corse, déjà, contactable tout le temps.
Deuxièmement, de jour, de nuit.
Et voilà, ça fait partie de la mission, ça fait partie du job. Ben, c'est comme ça. Des choses beaucoup plus compliquées dans la vie, et c'est un vrai choix, voilà.
Et la permanence de l'État, c'est quelque chose auquel on est évidemment de toute façon attaché, donc toujours savoir qui fait quoi, qui est en responsabilité, et généralement, il n'y a pas de problème quand c'est bien fait, et organisé, penser à l'avance.
Alors Pierre, pour cet été, est-ce que tu es plutôt Lones ou Copa?
Ah, les deux.
Ah, les deux, pas mal. Et toi?
Ah, moi.
Dur de choisir.
Moi, je suis plutôt Figaté l'hiver.
Ah, ok, bonne réponse, ça marche aussi. Écoutez, merci vraiment très sincèrement à tous les deux. Je pense qu'on a appris plein de choses sur la prévention, la protection de ce beau massif. Et je pense que pour les chanceux qui viendront marcher sur les sentiers cet été en Corse, ils auront un autre regard aussi sur le maquis et sur le travail des agents de l'État, que ce soit les pompiers, que ce soit les agents de préfecture, l'ONF et bien d'autres dont on a parlé. En tout cas, un grand merci à tous les deux et chapeau à toutes les équipes qui... sans qui tout cela ne serait pas possible et qui protège au mieux notre beau massif forestier.